Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
Jean-Luc Gréaud, économiste et consultant, auteur de L'avenir du capitalisme, livre paru en janvier 2005 aux éditions Gallimard dans la collection Le Débat.
Eh bien, ce dont je rêve, moi, c'est que justement l'avenir du capitalisme soit le grand livre de l'été de tous les auditeurs de l'ISOU et même au-delà, parce que c'est un livre qui m'a laissé pantoise d'admiration. Il y en a peu pour lesquels je suis aussi admirative. Il y avait celui de Gérard Duménil, hein, dont j'ai déjà parlé, mais celui-ci vient de quelqu'un qui n'est pas altermondialiste. Et ce qui est sidérant, c'est que vous faites une critique de la bourse, vous faites aussi une critique argumentée du libre-échange et d'un certain côté il y a un aspect un peu sidérant, vous êtes à contre-courant totalement de tout ce qu'on peut entendre dans les autres médias. Alors critique du libre-échange, pourquoi ?
Oui, mais critique du libre-échange parce que le libre-échange tel qu'il a été conçu depuis une quinzaine d'années et tel qu'il s'est traduit en particulier par la signature des accords de l'OMC en 1994 est un libre-échange quasiment inconditionnel. C'est-à-dire qu'on met en concurrence non pas seulement les entreprises, ce qui est normal, la concurrence de marché, mais en compétition des entreprises, des acteurs économiques dénommés entreprises, mais surtout les sites de production. Autrement dit, on ne joue plus seulement sur la capacité d'une entreprise à créer le bon produit, à le faire efficacement, à savoir le vendre, mais aussi sur le fait que on peut faire travailler des gens en Asie émergente, en Amérique latine, en Europe centrale, en Europe orientale, pour dans des conditions de travail et de rémunération infiniment plus médiocres qu'elles ne sont aujourd'hui en Europe occidentale. Donc, la possibilité pour ces entreprises d'abaisser leur prix de revient de manière drastique, et en même temps, cela signifie que les sites de production les plus anciens, ceux où sont nés précisément les industries, ces sites de production sont menacés, on le voit chaque jour, par des annonces de délocalisation.
Mais, et libre-échange, si tu peux me permettre, c'est libre-échange, ça veut dire quoi précisément ?
Ben, libre-échange, c'est d'abord, c'est le libre-échange des marchandises, bien sûr, et aussi le libre-échange des capitaux, mais on va d'abord aborder cette question de libre-échange des marchandises. Alors, ça ne porte évidemment que sur les marchandises qui sont transportables, ou les services qui sont transportables. Mais, donc, ils prennent le bateau, ils prennent l'avion, ils prennent la route ou le chemin de fer. Donc, ce libre-échange existe depuis longtemps dans des zones délimitées. La communauté européenne a été instituée en 1956 pour constituer un marché commun. La grande caractéristique de ce marché commun est double. Premièrement, il concerne des nations qui sont à peu près comparables par leur développement et par le statut de leurs ressources humaines, le statut salarial de leurs ressources humaines. Et ensuite, cette zone est relativement protégée de l'extérieur par un tarif extérieur commun. Pourquoi le fait-on ? Mais c'est essentiellement pour, au contraire, inciter les entreprises européennes à travailler en compétition ou à s'unir entre elles pour former des groupes européens. Donc les pères fondateurs du marché commun avaient une idée radicalement différente du libre-échange par rapport à celle qui s'est imposée aujourd'hui à la faveur du libre-échange mondial, libre-échange dont je dis qu'il est dans son principe inconditionnel.
Quel changement, on pourrait dire idéologique, y a-t-il eu entre ce libre-échange qui existait au sein de la communauté européenne, puis cette volonté maintenant que ça soit étendu à l'ensemble du monde ?
Bon, mais il y a le grand projet de mondialisation. Ce grand projet de mondialisation est apparu essentiellement à la faveur de la chute des régimes communistes. Bon, là, j'enfonce une porte largement béante. Mais il y a on a pensé que du fait que les deux grands systèmes en concurrence ne l'étaient plus après la disparition de l'un des concurrents, le concurrent communiste, désormais la place était faite pour l'implantation d'un système unique à travers le monde, c'est-à-dire le capitalisme, du moins le capitalisme tel qu'il est conçu principalement à Washington. On a parlé du consensus de Washington parce qu'il y a une doctrine économique qui est résumée dans ce consensus et qui est inspirée à la fois par les marchés financiers et par les milieux politiques dirigeants des grands pays anglo-saxons, Et je nommerai seulement les deux capitales qui sont absolument déterminantes dans ce mouvement, c'est-à-dire Londres et Washington. La capitale de M. Tony Blair et la capitale de M. George Bush.
Mais à terme, en tous les cas, quand j'écoute les autres médias, on me dit que ça va être bien cette histoire de libre-échange, que ça va permettre que justement chacun produise, chacun échange et que tout le monde va en profiter. Alors
Il est évident que les échanges se développent à travers le monde. Il est évident que le PIB mondial se développe, mais il se développe de façon très inégale. En réalité, quand vous regardez les chiffres, vous apercevez qu'il y a une zone quasiment dépressionnaire ou récessionniste qui est l'Europe occidentale, la nôtre. Il y a une zone qui est hors-jeu, qui est l'Afrique. Il y a une zone qui connaît une espèce d'ébullition économique, c'est l'Asie émergente. Il y a une zone qui s'accroît, qui est l'Amérique du Nord, mais essentiellement parce que le gouvernement et la Banque centrale stimulent l'économie. Et il y a une zone dont les résultats sont tout à fait contrastés, mais qui est très fragile, qui est l'Amérique latine. Dans son ensemble. Donc, en réalité, ce progrès économique ne bénéficie pas également aux différentes zones. Et surtout, on aperçoit aussi l'apparition de nouveaux pauvres et de nouveaux riches dans les différentes zones concernées. Chez nous, il y a de nouveaux riches, avec les traders, par exemple, ou les agents immobiliers. Bon, il y a aussi des nouveaux pauvres, les jeunes qui ne trouvent pas accès au marché du travail. Eh bien, en Chine, qui est dans une situation opposée, il y a de nouveaux pauvres, c'est-à-dire tous ces ruraux qui sont rejetés vers la ville, où ils doivent travailler sans contrat de travail, sans aucune protection. Il y a de nouveaux riches, mais c'est ceux qui profitent de la croissance locale. Donc, il y a en même temps des inégalités croissantes à travers le monde du fait de cette mondialisation. Cela a été un peu dit, mais pas suffisamment dit, et surtout ça n'a pas été analysé de façon factuelle.
Il y a quand même quelque chose qui m'étonne dans ce que vous venez de dire précédemment. Vous m'avez dit, certes, les échanges se développent, mais de façon inégale. L'Europe, elle, est dépressionnaire, l'Afrique est hors-jeu, etc., etc. Alors, pourquoi l'Europe, et éventuellement les États-Unis, soutiennent-elles cette forme d'organisation de l'économie, donc cette volonté de libre-échange et de mondialisation? Je sais pas, ils sont suicidaires?
Je pense qu'il y a une prise de pouvoir par étapes qui s'est faite à partir de 1980, et précisément avec le recul de l'économie keynésienne, puis après l'effondrement des régimes socialistes de l'Est et de Chine. Et donc, à cette occasion, essentiellement des pouvoirs dirigeants économiques et surtout financiers, basés à la bourse. La bourse est un monde en soi, avec les banques d'affaires, les analystes, les auditeurs, c'est-à-dire les comptables. Et tous ces gens-là, les traders, bien sûr, tous ces gens-là ont installé en quelque sorte une idéologie de circonstance dont le but était de valoriser au maximum l'activité des entreprises, de façon à ce que le cours des actions monte, que les dividendes montent, et qu'ainsi les actionnaires puissent en profiter largement. Mais dans le sillage de cette conception, bien entendu, la grande idée a été de dire recherchons la main d'œuvre, recherchons la matière grise la moins chère possible, partout où elle est efficace. Il ne suffit pas qu'elle ne soit pas chère, il faut aussi qu'elle travaille bien, et chaque fois que c'est possible, on pourra ainsi abaisser les prix de revient et accroître à due concurrence ou partiellement la marge de profit des entreprises. Donc je pense que c'est vraiment à la bourse de New York, à la bourse de Londres, dans les grandes bourses, les grandes places financières mondiales, que cette idéologie très matérialiste s'est constituée et a en quelque sorte pesé sur les pouvoirs publics qui ont accepté, qui ont entériné la proposition de libre-échange qui venait du monde économique et financier.
Il y a un petit truc encore que je comprends pas, c'est ça me semble ubuesque que des gouvernements, que des politiques soutiennent les intérêts d'entreprises, finalement, qui n'ont que faire de, alors ça, je vais utiliser un mot terrible, de l'intérêt national. Parce que ça me fait plaisir qu'on fasse travailler des Chinois, par exemple. Oui. Mais les gens d'ici, oui, par exemple.
Non,
oui.
Mais alors, le problème, d'abord, les gouvernements se sont crus dépossédés du pouvoir de régulation de l'économie après la crise de l'économie keynésienne. C'est-à-dire, vous savez quand même, il y a cette période très importante des années 70 où on a commencé à s'apercevoir que le modèle d'après-guerre fonctionnait moins bien. Donc, progressivement, ils ont abouti à un constat d'impuissance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On transfère le pouvoir de régulation économique à deux instances, qui sont les banques centrales, M. Greenspan, bien sûr, ou M. Trichet, et aussi les marchés financiers et principalement les marchés des actions, où on va réguler l'action des entreprises et même l'action des États, parce que les États s'endettent sur les marchés financiers à partir de ces marchés. Et en même temps, ils se sont dit, nous allons nous occuper du reste, et en particulier, nous allons nous occuper de la gestion du secteur social de l'économie. Alors, ce préjugé l'a emporté, mais au fur et à mesure que l'expérience se développe, l'expérience a commencé il y a 25 ans, à peu près au moment où Mme Thatcher et Ronald Reagan sont arrivés au pouvoir, au fur et à mesure que l'expérience se développe, on voit ces effets pervers apparaître de plus en plus fortement. Je vais illustrer encore cette question d'inégalité ou de déséquilibre par un point très simple. Bon. Actuellement, 60% des porte-conteneurs en provenance d'Asie qui accostent aux États-Unis en repartent à vide. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à rapporter en Asie. Pour l'Europe, c'est 41%. Alors ça vous donne une idée matérielle du déséquilibre en cause. Or, la conséquence, c'est qu'on ne peut pas facturer le voyage retour et qu'on brûle des tonnes et des tonnes de fuel pour transporter de l'air. Bon, ça vous dit bien le déséquilibre qui s'est institué dans les échanges entre l'Amérique du Nord d'un côté et l'Europe vis-à-vis de cette Asie émergente.
Mais quand tout à l'heure je disais justement suicidaire... Actuellement, il y a des transferts de technologies vers la Chine, vers l'Inde. J'ai l'impression que finalement, nos entreprises, il ne va plus vraiment y avoir certaines entreprises en Europe, par exemple, parce que tout va avoir été transféré dans les pays.
Bien sûr, on
peut pas
dire tout, parce que votre pizzeria de quartier, votre blanchisseur, tout ça va rester sur place. Tout ce qui est service de proximité ne peut pas être délocalisé. Donc, il faut modérer ce point de vue. Mais c'est quand même suicidaire dans le principe pour deux raisons. La première, c'est que, comme vous le dites, nous transférons les technologies d'aujourd'hui à des pays qui sont déjà très bien outillés. Ils vont pouvoir nous concurrencer même sur l'high-tech. La Chine est high-tech aujourd'hui. L'Inde est high-tech, bon, pour certaines portions de leur économie. Et puis en même temps, nous sommes de vieux pays. Nous avons des populations vieillissantes. L'espérance de vie vient de dépasser les 80 ans en France en 2005. Grande nouvelle. Et ça veut dire qu'on va devoir beaucoup dépenser pour ces populations vieillissantes. Mais si la base économique qui finance ce système de protection sociale se rétrécit, eh bien les dispositifs de protection sociale vont s'effondrer et nos comptes publics et sociaux vont tourner à banqueroute. Donc il y a un double suicide en cours. Mais les gouvernements continuent à penser que malgré tout, ils ont encore une marge de manœuvre. Alors là, je vais revenir sur un point que je n'ai pas évoqué, et je le regrette, c'est qu'il y a dans nos élites, ou d'une partie de nos élites, politiques, économiques, financières, même des personnes très intelligentes, bon, et de grande expérience, le préjugé que nous avons une ou plusieurs longueurs d'avance sur ces pays. C'est-à-dire que nous sommes plus forts qu'eux, grâce à notre technique, grâce à notre recherche-développement, etc. Or, c'est de moins en moins vrai, ça ne sera plus vrai du tout dans 4 ou 5 ans. Ponctuellement, l'Asie va nous dépasser dans très peu de temps. Par exemple, autre illustration, les jeunes Français, les jeunes Européens, les jeunes Américains se détournent des carrières scientifiques. C'est ce que disent tous les présidents d'universités scientifiques. Mais l'Asie, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les jeunes s'orientent vers les carrières scientifiques et ils font leurs études sur place, ou au Japon, ou aux États-Unis, ou en Europe, bien sûr. Donc, de ce côté-là, nous avons en réalité un mouvement de sens contraire, de rattrapage accéléré par ces pays, et en même temps, la perspective d'un dépassement probable à relativement courte échéance.
Des sous et des hommes, et on est toujours en compagnie de Jean-Luc Gréaud, donc qui a écrit « L'avenir du capitalisme ». Il y a un petit truc que je me disais pendant la musique, enfin, si on suit la logique de l'affaire, à terme, il faudrait que les protections sociales en France, que le coût du travail s'abaisse pour pouvoir faire de la concurrence aux pays asiatiques.
Évidemment, toute logique rationnelle, je dis bien rationnelle, ou mathématique, une réduction drastique des rémunérations et des conditions de protection sociale de l'ensemble des personnes qui travaillent sur les sites européens permettrait d'ajuster. Premièrement, je ne vois pas pourquoi on le ferait. Il n'y a pas de justification à partir du moment où cette rémunération, cette protection sociale sont issues d'un progrès économique qui s'est installé sur 60 ans depuis la fin de la guerre, qui a été immense. Bon, le PIB français a quand même été multiplié par 6 pendant cette période. Et la productivité à peu près autant. Donc, pourquoi priver les auteurs de cette richesse du bénéfice de cette richesse? Bon. Deuxièmement, chacun imagine, sans évoquer le CPE ou d'autres épisodes mouvementés de notre histoire sociale récente, que nous nous heurterions très rapidement à des mouvements de protestation ou de blocage du système économique et social. Et on peut penser aussi que les salariés qui seraient victimes de ces modifications brutales de leurs conditions seraient beaucoup moins incités à travailler efficacement qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc ça ne me paraît pas envisageable.
Alors quelle solution pour que les... que là, alors, autrement, on fonce dans le mur là.
La solution se résume en un terme abominable. Moniteur a dit que c'était une sorte d'injure. C'est le néo-protectionnisme. Alors, parce qu'il y a le mot protectionnisme dans le néo-protectionnisme. Alors, mais le néo change tout. Hein, on n'est pas néo-protectionniste comme on est protectionniste. Ça veut dire simplement qu'on s'adapte à des conditions de concurrence qui n'ont jamais existé auparavant. Bon. Jamais la France, jamais l'Allemagne, jamais l'Italie, qui se trouve dans une situation extrêmement mauvaise. Monsieur Prodi l'a dit hier aux Italiens, nous avons une équation économique absolument insoluble. Bon, jamais nous nous sommes trouvés dans cette situation. Dès lors, il faut envisager un protectionnisme à la carte, par produit et par pays. Hein. Vous avez donc des bicyclettes qui arrivent d'Asie à des prix cassés, ben on fait un droit anti-dumping sur ces bicyclettes. Bon, vous avez aussi tel autre produit, les voitures chinoises arrivent en Europe à partir de cette année. Depuis l'été 2005, la Chine est exportatrice nette d'automobiles. C'est-à-dire que nos marchés vont compter au moins autant que le marché chinois pour ses producteurs. Et nous ne pouvons pas exporter en Chine. Nous pouvons produire sur place pour le marché local, mais pas exporter en Chine. Donc, il faut envisager un néoprotectionnisme. C'est complètement à contre-courant de la doctrine bruxelloise, de la doctrine des marchés financiers, de la doctrine de l'OMC, bon, qui pense qu'il y a une division internationale du travail qui doit s'établir en répartissant tel type de production dans tel continent, tel type de production dans d'autres continents, etc. Or, ça n'est pas ce que l'on constate. Au contraire, on voit une compétition de la part des pays que l'on considère comme émergents et qui sont en fait avantagés. Donc, il faut mettre en place ce néoprotectionnisme de façon adaptée et sélective. Bon, je pense très, très réellement que ça devrait être quand même l'un des thèmes de la prochaine campagne présidentielle, de la prochaine campagne législative. Je crois constater une évolution des esprits à cet égard. Et j'espère que, à cette occasion, nous allons avoir un vrai débat. Et non pas seulement des pétitions de principe, du genre de celui du président de la République à Pékin. La mondialisation est une chance pour la France. Mais il faut regarder les échanges entre la France et la Chine. C'est 1 à 3, hein, en termes d'exportation et d'importation. Entre les États-Unis et la Chine, c'est 1 à 6. Et le différentiel s'accroît de semestre en semestre. Donc, c'est une chance pour Airbus, temporairement, c'est une chance pour Siemens, temporairement, et puis ça sera ensuite une catastrophe pour tout le monde. Voilà.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on va planter des petites barrières tout autour des frontières de la France ?
Pas de la France, mais de l'Europe, parce que le modèle pertinent, c'est la région économique, c'est-à-dire l'Union européenne. J'aurais préféré que ce soit l'Union européenne à 15, qui était quand même plus pertinente que l'Europe à 25, qui est devenue très hétérogène. Sachez quand même que la Bulgarie et le Roumanie qui entrent l'année prochaine dans l'Union européenne ont des conditions sociales qui sont pas très éloignées de l'Asie émergente. Hein. Le salaire minimum effectif en Roumanie doit être de l'ordre de 100 euros par mois, hein. Donc au maximum. De ce côté-là, il y a une grande hétérogénéité. Néanmoins, c'est à l'échelon de l'Europe que cela peut se faire. C'est Bruxelles. Il faut que les conseils des ministres, les conseils des présidents, et les hauts fonctionnaires de Bruxelles admettent qu'ils se sont trompés quelque part dans leur adoption imprudente du libre-échange mondial et que, dans l'intérêt des populations et des entreprises locales, il faut absolument mettre en place des protections minimales. Alors, néo-protectionnisme, donc j'insiste sur le néo. On n'est pas néo-protectionniste comme on est protectionniste. C'est-à-dire, on ne s'agit pas de nous protéger d'entreprises plus efficaces que nous, ou de nations plus efficaces que nous, mais d'entreprises ou de nations qui bénéficient de conditions de travail beaucoup plus favorables.
Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on interdira, par exemple, à une entreprise américaine de s'implanter en France ?
Non, bien sûr. Alors ça, d'abord, des entreprises américaines en France, il y en a beaucoup. Vous savez que la France reste un siège d'investissement direct important. Et il y a aussi des Asiatiques, comme les Japonais, qui travaillent en France de façon importante. Bon, la liberté, si actuellement, nous avons deux mouvements, le libre-échange des marchandises, le libre-échange commercial, et le libre-échange des investissements directs. Alors, la liberté des investissements directs est effective, au contraire, c'est-à-dire que la France se réjouit, que la ville de Lyon se réjouit, que la ville de Metz se réjouit, quand la ville de Valenciennes qui accueille Toyota se réjouit, parce que de l'emploi arrive. Mais là, cette liberté des investissements directs existe et elle n'est pas condamnable dans son principe, bien au contraire, puisque à partir du moment où vous travaillez en France, en Allemagne, en Italie, en Suède, vous travaillez aux conditions locales, conditions de rémunération fixées par le législateur ou par les conventions collectives. Là, le code du travail est applicable, le code commercial est applicable, et les mesures écologiques sont applicables, la sécurité civile doit être respectée. Tout cela est quand même tout à fait réconfortant, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation de concurrence sauvage, bien au contraire.
Et oui, donc c'était Des sous et des hommes avec Jean-Luc Gréaud. Je vous rappelle qu'il a écrit L'avenir du capitalisme, publié aux éditions Gallimard dans la collection Le Débat. Mais Jean-Luc Gréaud, je ne vais pas le laisser partir comme ça, nous le garde pour l'émission de la semaine prochaine, qui devrait notamment parler de déflation salariale. À suivre.